Bien sûr, cette pandémie que nous connaissons maintenant depuis plus de 18 mois a changé beaucoup de choses dans la façon de voir la vie, dans la façon de vivre. Et on a hâte peut-être que ça se termine. Est-ce que ça deviendra un jour normal comme avant? Non, je pense qu'il y aura un avant-COVID et un après-COVID. Ceci étant dit, dès le début de cette pandémie, il y a des experts à travers le monde qui ont levé le drapeau rouge disant « il va avoir des impacts importants également chez la clientèle des enfants ». Et c'est bien le cas, et on l'a constaté, il y a une étude qui a été menée par l'INSPQ qui en rapporte des comportements tout à fait différents maintenant chez les enfants. On va en parler, si vous le voulez bien, avec la docteure Marie-Claude Roy, qui est pédiatre. Bonjour, docteur Roy.
Bonjour, monsieur Mongrain.
Il y a eu des bouleversements pour tout le monde. Cependant, on dit souvent des enfants que, ah, mon Dieu, c'est des éponges, ils apprennent vite. Ils apprennent vite ce qui est bien, mais ils apprennent vite les mauvais côtés des choses probablement également. Et donc, ils sont éponges également pour les impacts qu'a amené leur changement de vie dans leurs habitudes.
Certainement. Je pense qu'on entend beaucoup dans la dernière année que les enfants sont bons, qu'ils s'adaptent, qu'ils sont résilients. Et on oublie par le fait même de dire que oui, on s'adapte, mais qu'est-ce que c'est au fond un enfant qui s'adapte pas? On se serait attendu à quoi d'un enfant qui s'adapte pas? Bien évidemment, ils se sont adaptés, ils n'ont pas le choix. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de dommages collatéraux? Pas du tout. On l'a vu, les études sont claires à travers le monde, de façon très variable, indépendamment des populations, indépendamment des mesures mises en place par les différentes nations. Il y a des enfants qui l'ont eu beaucoup plus dur. Il y a beaucoup de pays dans le monde où il n'y a pas eu d'école depuis 18 mois. On a la chance d'être dans une nation, dans une province où la priorité a été mise sur le maintien de l'école et je pense qu'on sera heureux pendant des années d'avoir pris cette décision-là. Mais néanmoins, les enfants et les jeunes ont été amochés, disons-le comme ça. Ils commencent à aller mieux parce que la vie reprend tranquillement son cours, mais ce ne sera pas sans dommages collatéraux.
Est-ce que chez un enfant, l'acquis, positif ou négatif, s'estompe avec le changement de milieu qui conditionne son évolution?
Oui, nécessairement, ça module sa trajectoire, ça module son évolution et tout est dans la durée de ce changement-là. Et on le sait, les enfants qui ont grandi ou qui grandissent dans une famille qui n'a pas trop été perturbée par la COVID, des parents qui ont gardé leur emploi, des parents qui étaient affectivement, émotivement très forts, un milieu scolaire qui a maintenu la stimulation, des enfants qui ont pu continuer à aller à l'école, bien, ils s'en sortent relativement bien. Néanmoins, quand on pense à la tranche d'âge des adolescents, ils ont très peu de temps pour se forger une personnalité, ils ont très peu de temps pour faire leur tâche développementale. On parle d'individuation, de se distinguer, se séparer de l'adulte, de leurs parents et de se forger une personnalité comme adulte. Bien, c'est sûr que ça risque d'entraver leur trajectoire pour de nombreuses années parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour vivre ça et la façon qu'ils doivent le vivre, c'est de sortir de la maison, de vivre des expériences sociales et là, depuis 18 mois, on les a freinés là-dedans.
Absolument. Donc, oui, parce ça que... peut. Oui, c'est ça parce que vous venez de... On pense pas à ça puis vous venez de m'y faire penser. C'est parce que quand la pandémie a commencé, j'avais 16 ans et demi, puis là, je suis majeur, j'ai 18 ans, je suis un adulte.
Tout à fait.
En un an et demi, je n'ai pas eu conscience ou je n'ai pas été en mesure d'un apprentissage évolutif de ma marche vers la maturité ou vers la majorité. C'est spécial, ça.
C'est tout à fait spécial et ces années-là très, très importantes ne repasseront pas. On peut penser que les enfants de 5, 7, 8, 10 ans, s'ils n'ont pas eu trop d'adultes, je vous dirais, traumatisés par la pandémie parce qu'ils absorbent les émotions des adultes autour d'eux.
Absolument.
Donc, si leurs parents ont été des bons récepteurs d'émotions, qui ont été capables de les guider à travers ça, ben, je pense qu'ils vont reprendre la vie à la condition qu'on leur laisse le choix de le faire. Donc là, les choix dans les prochains mois qu'on va prendre comme société vont être extrêmement importants parce qu'on n'est plus dans le court terme, on n'est plus dans le défi 28 jours, si vous vous rappelez d'octobre dernier. On est dans une nouvelle vie, vous l'avez nommé tout à l'heure, une nouvelle réalité pour tous. Donc, où se fera le choix? Puis je pense qu'à travers le monde, toutes les nations se posent la question, quand est-ce qu'on va changer d'angle, de perspective, puis qu'on va décider de dire, bien, OK, on vit avec ce virus-là, envers et contre tout, mais il va falloir que la vaccination progresse pour faire ça.
Ça veut dire qu'il est possible que des parents, après 18 mois, ne reconnaissent plus l'enfant qu'ils avaient avant la pandémie. Et à l'inverse, qu'il y a des enfants qui disent « Hey, je ne reconnais plus mon père et ma mère dans leur comportement et leur attitude. »
Mais je pense que nous tous, on se reconnaît plus ou moins. On a tous l'impression que ça nous a profondément modifiés. Je ne sais pas, mais la majorité des gens ont fait de grandes réflexions philosophiques dans les 18 derniers mois et c'est tout à fait positif. Mais oui, effectivement, on ressort de ça, tous changés. Parfois pour le mieux, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de belles choses. On le dit, hein, dans l'espèce de ralentissement du rythme de vie, il y a beaucoup de bénéfices. Puis l'étude de l'INSPQ faisait allusion à ça. D'ailleurs, des adolescents qui ont redécouvert le plaisir de cuisiner avec leurs parents, de faire des choses en famille. Donc oui, il n'y a pas que du mauvais, comme dans toute situation. Mais là, maintenant, il faut être capable de cibler le bon, puis d'évacuer le plus possible de choses néfastes pour l'étude de l'évolution de nos enfants.
Imaginons des couples non fonctionnels, des familles non fonctionnelles qui vivent cette période-là, qui pourraient expliquer 450 listes d'attente pour évaluation à la DPJ. Là. Ça aussi, oui. ça précipite des enfants dans une autre vie.
Oui, il y a beaucoup plus de particularités, difficultés comportementales, gestion des émotions, anxiété. Oui, on parle des cas extrêmes, on parlait des hospitalisations, de troubles alimentaires, des idées suicidaires. Ça, évidemment, on est à l'extrémité du spectre.
Oui, oui.
Mais entre tout ça, il y a des comportements de régression, de gestion des émotions, de revoir, de se projeter dans l'avenir. Parce qu'il y a ça aussi avec cette espèce de pandémie, de parenthèse qui ne se termine plus. Pour un jeune, pour un adulte, c'est facile de dire qu'il va y avoir dans un an, deux ans. On a vécu tellement d'années dans notre vie qu'on sait qu'il va y avoir un après. Mais pour un jeune, de se projeter dans l'avenir, actuellement, c'est difficile, puis c'est là-dessus qu'il faut tabler. Il faut les aider à se projeter, il faut les aider à s'accomplir, puis c'est pour ça que la reprise des sports, tout ce qu'on a vu cet été, c'est extrêmement bénéfique pour les jeunes.
Mais je regarde les résultats, on dit que chez les enfants d'âge préscolaire, c'est pas vieux, cela, là. La majorité des cas perçoivent une augmentation des problèmes de conduite, l'attitude de l'enfant, de la façon dont il se conduit. Il était gentil, il est moins gentil, il était sage, il est moins sage, il voulait se coucher, il ne se couche plus. De l'anxiété, un enfant qui fait de l'anxiété en préscolaire, là, c'est quelque chose. Là. Je ne sais pas ce que c'est, moi, de l'anxiété préscolaire. Des troubles de l'humeur, 80 % les enfants sont plus irrités, irritables. C'est incroyable.
Ils absorbent énormément les émotions autour d'eux, premièrement. Ils ont eu besoin de s'adapter à de multiples changements. Donc ça, c'est un facteur de stress important. Hein. Nouvelle éducatrice, éducatrice avec masque, éducatrice avec visière, pas de visière, changement de groupe, bulle classe, on change de garderie, on est retiré de la garderie 14 jours parce qu'il y a un rhume, on revient, on arrête. Donc cette espèce de non-continuité-là dans le temps a été très difficile pour les tout jeunes enfants. De plus, ils vont se moduler à l'émotion de leurs parents. Donc, si on a des parents qui ont vécu beaucoup d'anxiété, comme une grande proportion de la population,
ouais,
on va se le dire, l'enfant va se modeler à ça. Il y a aussi des comportements de régression. Hein. Quand on est dans une période où on se sent menacé comme famille, comme adulte, ben, le réflexe, c'est de régresser un peu puis de limiter le contact avec l'extérieur,
ouais.
Se refermer. Puis, on voit chez les tout jeunes, nous, on le voit en clinique, les jeunes de 12-18 mois qui ont presque vu aucun adulte autre que leur famille immédiate, ils sont beaucoup plus peureux, on a beaucoup plus de difficultés à les approcher.
Ah oui, moins sociabilisés.
Oui, tout à fait.
Pas de visage étranger, donc t'es un péril parce que je te connais pas, puis je suis pas habitué de voir ça. C'est assez particulier. Quand on regarde ça, docteur, qu'est-ce qu'on va faire de cette... Qu'est-ce qui va arriver de ces enfants-là? Comment... Parce que c'est beau là, de dire que ça a créé un trouble, mais la solution réside où, là, à la sortie d'une pandémie comme ça?
Bien, la solution, elle est réside. La solution, si je l'avais, mon Dieu, je pense que je serais...
Oui.
M. Legault m'aimerait beaucoup, puis je serais dans son bureau. Mais je n'ai pas la réelle solution. Je pense que la solution, c'est de préserver des gouttes de normalité, de préserver une structure stable, donc la reprise de l'école en présence, à temps plein, pour tous, la garderie, la routine, la socialisation, les activités. De maintenir tout ça pour les enfants, c'est extrêmement... C'est primordial, mais ça, je pense que j'ai pas... On prêche en terrain convaincu. Le gouvernement est très, très convaincu de ça.
Le gouvernement est convaincu de ça, mais nous, il faut peut-être se le répéter, parce que si notre vie à nous est perturbée, il faut revenir quand même ou jouer à trouver des régularités dans notre vie pour aider ces enfants-là à saisir qu'il y a un équilibre là et qu'ils ne soient pas toujours déstabilisés.
Oui, de cesser de voir l'étranger et l'extérieur comme une menace. Hein. Je pense que tous, on a à se réhabituer à tout ça. Réexposer nos enfants à à une vie sociale acceptable, les pousser vers l'extérieur à nouveau. Puis collectivement, ce qu'on a à faire, je pense que c'est ce qu'on a de mieux à faire actuellement, c'est clairement d'aller se faire vacciner pour qu'on puisse protéger ça. Parce que l'autre inquiétude qu'on a pour nos enfants, c'est comme ils ne seront pas vaccinés, les 0-12 ans, nécessairement, il y aura plus de COVID dans cette population-là. Mais tant que ça ne se traduit pas par plus d'hospitalisation, il va falloir apprendre une tolérance à tout ça aussi.
OK. Là, j'ai des petits cas pratico-pratiques de conseils là, à des papas et à des mamans.
Oui.
L'enfant est inquiet, il fait de l'anxiété, il ne veut pas se coucher. Oh, j'aime mieux aller dormir avec toi, papa, ou avec toi, maman. Il y a beaucoup d'enfants qui, pendant cette période-là, et on le dit ici dans l'étude, ont intégré la chambre parentale. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, ou on va avec eux, puis le temps qu'ils s'endorment, qu'est-ce qu'on fait?
Mais en fait, ce qu'il faut penser, c'est que c'est très confortable et réconfortant, même comme parent, de ramener l'enfant dans notre lit. Il y a quelque chose de très chaleureux, de très plaisant. Par contre, c'est la chose à ne pas faire, parce que ce qu'on envoie comme message à l'enfant à ce moment-là, c'est que tu as raison, il y a une menace. Donc, viens avec maman, il n'y en aura plus de menace. Donc, l'enfant enregistre que oui, il avait raison d'avoir peur, puis il y avait une menace. Donc, ce qu'il faut faire, c'est l'accompagner dans cette espèce d'affrontement-là du vide, de la peur, puis d'être présent, mais de le ramener, évidemment, vers sa chambre, parce qu'on entretient un sentiment d'insécurité et l'enfant, dans son inconscient, finit par enregistrer qu'il a raison d'avoir peur tout seul dans sa chambre. Donc, c'est un comportement à défaire.
On confirme ces craintes qui sont de fausses craintes, mais on les rend vraies et véritables.
Puis c'est vrai que c'est le réflexe humain et rapide et facilement accessible, mais mon Dieu, que rapidement il faut défaire ça parce que l'enfant ne sera plus confiant pour la suite.
Je vais prendre le mot scientifique aussi. Un autre cas, c'est l'énucérie. C'est en
l'énurésie,
fait, l'énurésie, excusez-moi, c'est faire pipi au lit. Il n'a jamais mouillé son lit, c'est terminé. Mais là, oups, résurgence de cela. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
En fait, je pense qu'il faut voir, souvent c'est quand on est dans un sommeil très profond, réétablir une routine de vie, une hygiène de vie. On le voit, l'énurésie peut être expliquée par toutes sortes de choses. Les pipis au lit, là, il peut y avoir un million de raisons, mais s'il n'y a rien de médical derrière tout ça, ça peut être associé à un facteur émotif important. Donc, encore une fois, on se ramène à la base, l'hygiène de vie, la routine rassurante, la présence apaisante, puis rester dans un cadre prévisible et rassurant, puis ça va faire son temps. Mais il ne faut pas s'alarmer outre mesure si le tour médical, évidemment, a été fait, là. Mais c'est souvent une expression du stress sous-jacent chez certains enfants.
Il y a d'autres enfants, et des parents l'ont constaté, ils étaient volubiles, ils parlaient bien, il y avait un beau vocabulaire, s'exprimaient bien. Et là, ben, il y dirait une perte ressentie là, de vocabulaire. Ça diminue, semble-t-il, chez certains enfants, une dégradation du vocabulaire. Où on peut trouver une dégradation du vocabulaire? C'est pas dans sa qualité, c'est dans sa quantité. Quoi, on parle plus?
Bien, en fait, dans l'étude de l'INSPQ, c'est un amalgame et ils ont fait une revue de la littérature, hein, de tout ce qui a été publié à travers le monde, surtout au début de la pandémie. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les jeunes enfants qui sont dans l'apprentissage du langage, le contact avec les autres enfants, les pères du même âge, avec les éducateurs, un milieu stimulant, toutes sortes d'environnements, ça stimule le langage, ça donne le goût de communiquer. Donc, c'est sûr qu'avec dans les premières vagues, dans la pandémie, quand il y a eu une réclusion et un confinement, bien, on a pu voir ce genre de choses-là. Donc, c'est ce qui ressortait dans les études. Donc, encore une fois, c'est de donner l'occasion à l'enfant de parler, de socialiser, de lui parler, mais c'est probablement en raison de ça là, que ces dégradations, ces détériorations-là des capacités de langage des enfants avaient été notées.
Je me rappelle qu'au début de la pandémie, on disait qu'il va y avoir des effets secondaires de ça. Bon, on parlait de violence conjugale. Tu sais, on parlait du monde des adultes. Puis j'ai l'impression qu'on a comme ignoré ou pas pensé que l'univers des enfants pouvait également être affecté. Dans la violence conjugale, il y a des effets à long terme, très évidemment. Il y a des bris de couple, il y a quelque chose de toxique qui s'est installé. Comment on répare ça? Quel est l'avenir de ces couples-là? Je ne sais pas, c'est leur affaire. Et les enfants, à long terme, qu'est-ce que ce sera?
Les enfants à long terme, écoutez, malheureusement, des enfants qui vivent de la violence domestique, de la violence conjugale, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Ce qu'on veut le plus possible, c'est leur apporter des filets de sécurité, hein, d'où le maintien de l'école, d'où les réseaux sociaux, d'où toute notre responsabilité collectivement quand on voit des situations qui nous préoccupent. Pour le devenir, ben, je pense que plus la communauté va faire ce qu'il faut pour les entourer, les accompagner, ces enfants-là, mieux ils risquent de s'en sortir. Hein. C'est à long terme qu'on parle de résilience. On ne peut pas parler de résilience à court terme. Donc, c'est le futur qui va nous le dire. Mais je pense qu'on a clairement la chance d'avoir une société qui fait des choix bénéfiques en ce sens-là.
Espérons-le et souhaitons-le. Puis merci de cette sensibilisation auprès des parents, parce que, évidemment, si j'ai peur du tonnerre, je vais donner la peur du tonnerre à mes enfants. Alors, c'est encore l'éducation étant, entre autres et principalement, l'exemple. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'orienter pour minimiser les risques. Merci beaucoup, Mme Marie-Claude Roy, médecin pédiatre. Merci bien.
Je vous en prie, au revoir.
Au revoir. On s'arrête pour une pause.